Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, patience, Ngalula Banangi.
Au sommaire de cette session d'actualité, en Ituri, l'armée met en garde les groupes armés qui tenteraient encore de troubler l'ordre public. C'est au lendemain des violents combats qui ont opposé deux groupes armés à Pluto, occasionnant ainsi la mort de 26 personnes, dont 6 militaires de FRDC. Plus de 170 cas de paralysie flasque aiguë sont notifiés dans les Haut-Katanga depuis le début de cette année. À l'heure actuelle, toutes les 27 zones de santé sont touchées, chacune par au moins un cas. L'invité de ce journal est le maire de la ville de Goma. Le commissaire supérieur principal Faustin Kapend Kamand s'est dit déterminé à lutter contre la criminalité grandissante dans sa juridiction. Bonsoir. Ce journal part de l'Ituri. Tous les groupes armés signataires d'actes d'engagement doivent cesser immédiatement les exactions contre la population de peur d'être considérés comme des ennemis de la paix. Déclaration de l'armée devant la presse ce dimanche à Bunia, au lendemain de la mort de 26 personnes, dont 6 militaires de FRDC à Pluto, au nord-ouest de Bunia, dans les territoires de Djougou. Selon les porte-parole de FRDC en Ituri, les forces loyalistes sont déterminées à imposer la paix partout où l'ordre public sera perturbé. Le lieutenant Jules Ngongo le dit au micro de Martial Kizabiamungu.
Tous les groupes armés qui essaieront de s'attaquer à nos populations ou à l'une de nos positions, la riposte de forces armées sera impitoyable. Et ceux-là qui continueront à troubler l'ordre public, la quiétude de nos populations, dans les coins et recoins des territoires de Djougou, la réaction sera tout de suite et maintenant. Les forces armées sont résolument décidées de mettre fin à toute tentative de déstabiliser la province. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Louboyan Kanchan Madjoni, nous encourageons les forces armées de poursuivre l'ennemi et le mettre hors d'état de nuire. Nous appelons la population à faire confiance aux forces armées et à soutenir son armée, afin de mettre fin aux aventures de tout le groupes armés qui continuent à s'attaquer à la paisible population. S'ils ne voudront pas respecter leur acte d'engagement.
De Bunia, rendons-nous à Goma dans le Nord Kivu. La fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie de la population de la ville de Goma. Déclaration de l'autorité urbaine ce dimanche lors d'une cérémonie de présentation des présumés criminels et bandits qui insécurisent la population. Parmi eux, un récidiviste arrêté pour la troisième fois pour des actes de criminalité. Le maire de Goma exhorte les autorités judiciaires à faire preuve de rigueur dans l'examen des dossiers de criminalité et des banditismes en évitant d'accorder trop facilement la liberté provisoire aux accusés. Rosalie Zawadi nous en dit plus.
Chaque présumé bandit a été présenté, relié à un fait de criminalité précis. Ici, un officier de sécurité présente devant les maires un membre du groupe.
Celui-ci était dénoncé à partir du quartier Mapendo. Être en connivence dans un groupe de voleurs à main armée, il détient l'arme AK-47. Un revolver de 9 mm. Jusque-là, les enquêtes continuent.
Parmi les présumés bandits présentés ce dimanche, un militaire des FRDC, ce que regrette l'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin.
Nous étions choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma et il y a eu recrudescence. Mais Dieu merci, nous avons mis la main sur les auteurs de meurtre à Keshero. Et l'auteur, c'est ce militaire de Satan 2. Et son compagnon, c'est un mépris de justice. C'est la troisième fois qu'on venait de l'arrêter. Je pense cette fois-ci, la fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie des gens de Goma.
Le maire de Goma souhaite une collaboration avec les autorités du territoire voisin de Nyiragongo pour mieux traquer les personnes impliquées dans des actes d'insécurité dans sa ville. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu toujours, des combats sont signalés ce dimanche matin à Kirumba, dans le territoire de Lubero. Des sources locales rapportent que des combattants Wazalendo auraient lancé une attaque contre les rebelles du M23 qui occupent cette agglomération depuis plus d'un mois. Des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus depuis 5h ce matin, heure locale. Selon un membre de la jeunesse locale contacté par Radio Kapi, ces tirs étaient localisés vers les centres commerciaux de Kirumba, mais aussi les marchés centrales et les quartiers Birere. C'est vers 9h locales que la population qui s'était terrée chez elle a commencé à sortir lorsque ces combats ont cessé. Aucun bilan de ces affrontements n'est connu jusque-là, sans trop de précisions. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, dit être au courant de ces accrochages. Dans la province de La Tchopo, les personnes vivant avec handicap et victimes des guerres demandent au Frivao d'œuvrer dans la transparence et d'accélérer les mécanismes de leur indemnisation. Elles l'ont déclaré samedi au cours d'un forum citoyen axé sur les processus d'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani. De ces faits, elles ont formulé un certain nombre de recommandations à transmettre à la coordination des Frivao. Ce forum citoyen a connu la présence du président du conseil d'administration de cet établissement public, Bernard Kalombola, invité pour la circonstance. Les explications avec Jacques Mkonkole.
Environ 100 victimes des guerres ont participé à ce forum citoyen. Les participants dénoncent un certain nombre de faits qui, selon eux, ralentissent l'évolution du processus d'indemnisation. Jacques Yaetema, coordonnateur des associations des personnes vivant avec handicap.
Il y a un grand lenteur qu'on a constaté par rapport à l'administration et par rapport à l'indemnisation. Et aussi, nous avons constaté aussi, il y a le manque de professionnalisme au travail qui tire un peu les choses à la longueur, puisque les victimes sont impatientes. Et nous avons aussi suivi qu'il y a d'autres faux victimes qui revendiquent. Tout ça, c'est quoi? C'est manque d'une bonne communication.
Au terme de cette autopsie, à leur manière, les personnes vivant avec handicap, elles aussi victimes des guerres, ont émis quelques recommandations, notamment la transparence, comme l'explique Alphonse Longongo, président du cadre des concertations de la société civile.
Travailler avec toutes les parties prenantes de manière transparente, mais aussi respecter ce qui est convenu entre parties prenantes. Dans ce contexte-là, il faut aussi que Frivao rende compte de ce qu'il est en train de réalisé pour éviter de suspicions.
Autre recommandation à adresser au Frivao, une franche collaboration avec les structures d'accompagnement des victimes des guerres. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Santé à présent, la province du Haut-Katanga a notifié 172 cas de paralysie flasque aiguë depuis le début de cette année 2024. Les échantillons envoyés à l'INRB sont tous négatifs. Les responsables du programme élargi des vaccinations dans le Haut-Katanga demandent aux parents d'amener dans des structures médicales les enfants qui présenteraient les signes de paralysie des membres supérieurs ou inférieurs. Jean Gandou pour les détails.
À l'heure actuelle, ce sont toutes les 27 zones de santé qui ont notifié au moins un cas de paralysie flasque aiguë. Le premier a été enregistré au mois de janvier 2024 dans la zone de santé de Ruachi à Lubumbashi, qui compte à ce jour 46 cas. Les autres zones de santé qui ont aussi beaucoup de cas sont notamment Mufunga et Kenya avec chacune 11. L'âge de la plupart des victimes varie de 0 à 5 ans. Il y a aussi celles qui ont plus de 10 ans. Jusqu'à présent, aucun cas de décès n'a été signalé, rapporte le médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination dans le Haut-Katanga. Dr Blaise Kalenga précise aussi que tous les échantillons prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa sont négatifs. Ainsi, il demande aux parents qui constateraient que leurs enfants qui marchaient ou qui rampaient ne les font plus, de vite les amener directement dans les structures médicales pour une bonne prise en charge. En outre, ils doivent respecter le cycle complet de vaccination. Pour sa part, le médecin chef des zones de santé de Ruachi se félicite du travail abattu par les cellules d'animation communautaire ainsi que les relais communautaires pour retrouver tous les cas notifiés. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle, plaidoyer pour l'asphaltage de la route nationale numéro 2 reliant la ville de Bukavu et de Goma, la prise en compte de la jeunesse dans les institutions de la République et les retours de la paix. Telles sont les revendications présentées ce samedi à Kinshasa aux nominés et aux nouveaux députés et sénateurs du territoire de Kalehe au sud Kivu. C'est à l'issue d'une messe d'action des grâces organisée à la paroisse Notre-Dame de Fatima par l'entente des ressortissants du territoire de Kalehe, RTR. TK en sigle, à l'occasion de la nomination de Mme Chantal Chambou-Mwavita, ministre des Droits humains dans le gouvernement Judith Suminois. Justin Bahati, coordonnateur national de la composante jeunesse de la société civile, a rappelé aux nominés que les jeunes ont besoin d'une place méritée dans les institutions. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le territoire de Calais est entre deux provinces, le sud et le nord Kivu. C'est un territoire avec des potentialités, avec tous les avantages. Ça relie deux provinces majeures à ces moments de crise ou de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. L'utilité principale, ce sont les infrastructures. Et l'infrastructure ou les infrastructures routières restent les infrastructures principales. Nous avons besoin de voir la route nationale numéro 2 reliée à la ville de Bukavu, à la ville de Goma, être asphaltée. Ça va désengorger le mouvement des populations qui passent par Bukavu vers Goma. Nous avons besoin que la route Goma-Bukavu soit mise en œuvre, parce que ça a été annoncé plusieurs fois par les autorités, mais jusque-là, aucune action sur le terrain. C'est aussi une promesse du chef de l'État. Il l'a annoncé dans sa campagne, il l'a répété, ses collaborateurs l'ont aussi souligné. Nous voudrions que ça soit exécutif et effectif. Mais aussi, il y a un problème de taux d'engagement de la jeunesse. Les jeunes ont besoin d'une place méritée et une place qui leur revienne. Et donc, elle doit être aussi dans des institutions. Aujourd'hui, ce sont les recommandations politiques. Les gens qui ont des compétences, qui ont des atouts, n'ont pas de place dans des institutions. Et pour le reste, nous avons besoin de la paix. La paix doit être rétablie à l'est de la République.
Au Maniema, les tronçons Kalima-Salubezia pour atteindre l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA-Salubezia est en mauvais état. Et pourtant, cette route de desserte agricole permet l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. Pour arriver à Kalima, il faut utiliser des motos ou par course, on débourse 5 000 francs, ce qui fait 200 000 francs congolais pour l'aller et les retours par personne. Florence Kizalunga a parcouru cette route. Voici son reportage.
De Kindu à Salubezia, c'est 187 km. La route est passable sur le tronçon Kindu-Kalima, mais le tronçon Kalima-Salubezia, pour y affronter, il faut avoir des nerfs solides et être entièrement en bonne santé. Pour une distance de 86 km, on fait difficilement 4 heures du temps avec une Jeep neuve Land Cruiser 4x4. Le chef de la station INERA Salubezia plaide pour la réhabilitation de cette route de desserte agricole qui rêvait d'une importance capitale. Augustin Moulongoi.
La station INERA Salubezia se trouve à 187 km de la ville de Kindu. Il y a le tronçon Kindu-Kalima, c'est un tronçon qui est presque acceptable. Mais quand vous quittez Kalima jusqu'ici à la station INERA Salubezia, je vous dis, c'est presque l'enfer. C'est pour cela que nous avons toujours lancé notre SOS au gouvernement congolais, y compris le partenaire, de pouvoir quand même songer à la réhabilitation de ce tronçon routier. C'est un tronçon routier qui permet l'évacuation des produits agricoles de Salubezia jusqu'au centre de consommation.
À ces problèmes de route s'ajoute également le problème de communication où tout au long de la route il n'y a que le réseau mobile à 5 km de Salubezia. De retour de Salubezia, Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans la province de Lomami, lancement ce samedi dans le territoire de Ngandajika des travaux de lutte anti-érosive au site Outou et d'entretien de la route provinciale Chikui Ngandajika long de 45 km. La cérémonie a été présidée par les gouverneurs des provinces de Lomami, Iron Van Kalombo, en présence du président de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux, de la délégation du conseil d'administration et de la directrice générale adjointe du FONER. Des explications avec Esther Dalafina.
Les travaux de lutte anti-érosive s'effectuent sur le site Outou et ceux d'entretien de la route provinciale Chikuingandanjika partent de l'hôpital général de référence de Ngandanjika jusqu'à la grande place Bwangando. Le directeur provincial de l'office des routes Lomami a indiqué que ces travaux sont financés à plus de 800 000 dollars par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier FONER. Il a par ailleurs précisé que son service a bénéficié d'un acompte de 50% pour le démarrage de ces travaux qui seront contrôlés de bout en bout par le bureau technique de contrôle BTC. Selon ingénieur Guy Bravo Ngoy, les travaux consistent à faire le reprofilage rapide, la couche des roulements en matériaux sélectionnés, la construction des caniveaux rectangulaires, la construction des collecteurs principaux sur une distance de 700 mètres, la construction des trois dallos ainsi que la construction des dissipateurs d'énergie. Le gouverneur de province a appeler la population à la vigilance et à l'accompagnement de l'équipe qui exécute ces travaux. Iron Van Kalombo Musoko a également exhorté l'office des routes à respecter les normes et le délai de 4 mois imparti pour ces travaux. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Zongo, ville au nord-ouest de Guémena dans le sud de Bangui, la population s'est plainte de la cherté de la vie. Une situation consécutive au franc CFA qui supplante la monnaie nationale dans les transactions. Par suite de l'inflation du franc congolais, plusieurs articles sont en hausse sur les marchés. Les prix restent plutôt fixés par rapport à cette devise étrangère, y compris d'autres services publics où les taxes sont perçues en franc CFA. À ces propos, le Parlement des jeunes de Zongo a lancé un SOS ce week-end. Son premier vice-président, Jean-Vianney Dodo, demande au gouvernement de faire respecter la décision d'indexation des prix en monnaie nationale. Suivez.
Jadis, au marché, un verre du riz se vendait à 200 francs congolais. Mais aujourd'hui, ces mêmes verres-là, ça se vend à 1000 francs congolais. Ça veut dire que 200 francs CFA égale à 1000 francs congolais. Si vous avez besoin de 2 verres du riz, vous devez donner 2000 francs congolais. Donc, pour vivre à l'aise, tu dois avoir les francs CFA que les francs congolais. Et cette politique a fait à ce que même les services étatiques, l'État a mis les taxes en francs congolais et ils en profitent pour taxer en francs CFA. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils te taxent à francs CFA, ils vont les soirs changer les francs CFA qu'il a eu en francs congolais pour retirer sa part et aller verser ce que l'État a demandé à francs congolais. Ce qui fait que c'est la population qui en paye la conséquence. Alors la population sait que c'est l'État qui lui demande à franc CFA. Il est obligé de payer à franc CFA. Si cette politique a changé que toutes les activités étatiques devaient se faire en franc congolais, moi je vais demander que l'État prenne en charge ses responsabilités. Parce que réguler les francs congolais par rapport au franc CFA, ça ne dépendra pas de la population. C'est l'État qui pouvait en décider.
Actualité internationale.
États-Unis, la tentative d'assassinat contre Trump met en avant les défaillances du Secret Service. L'ex-président des États-Unis, Donald Trump, a été victime d'une tentative d'assassinat le samedi 13 juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Le candidat est ressorti indemne avec une légère blessure à l'oreille, mais une personne a été tuée et le tireur présumé a été abattu par les forces de l'ordre. Au cœur des débats, le manquement de la sécurité de Trump et des services secrets.
L'invité.
Le maire de Goma a présenté ce dimanche matin un groupe de présumés criminels. Ceci après une semaine difficile dans la ville, semaine marquée par des tueries, des cambriolages et des tirs nourris la nuit dans plusieurs quartiers. Quelle analyse fait le maire concernant la situation sécuritaire dans sa juridiction? Le commissaire supérieur principal Kapent Kamand Faustin répond dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur le maire de Goma, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez de présenter des bandits armés. Ce n'est pas la première fois. Quelle est la particularité de cette présentation ce matin?
C'est un cas de flagrance qui a jeté la ville en émoi. Tout le monde était bouleversé pour avoir subi 3-4 morts en dehors de ceux qui étaient lynchés au camp Lushagala dans le phénomène sorcellerie. Mais les faits criminels de braquage, de cambriolage, ça créait encore un désespoir dans la ville de Goma. Mais si nous nous sommes permis de vite réagir, c'est le résultat que vous venez de voir ces jours. Il s'agit pratiquement de 3 bandes de criminels. La première bande est constituée de assassins de nos compatriotes au quartier Keshero avant-hier, avec leur complice qui gérait les armes dans sa maison. Ils ont reconnu leur forfait et ils sont entre nos mains. Mon regret, c'est d'avoir arrêté ces gens après leur forfait. Et pourtant, on pouvait éviter leur mort. Parce que lorsqu'on est en prévention, il faut anticiper certains événements par un bon renseignement. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons perdu les compatriotes, mais les services ont quand même fait un effort pour avoir démantelé ces réseaux.
Parmi les personnes présentées ce matin, il y en a une qui vient d'être présentée comme bandit pour la 3e fois. Pourquoi elle se retrouve encore en circulation alors qu'à chaque fois elle est présentée dans les groupes des malfrats?
C'est délicat pour nous, mais j'invite seulement l'auditorat à prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a certains de nos responsables animateurs de l'appareil judiciaire, par le petit mot « liberté provisoire », mais l'homme ne change pas. Moi, je pense que cette fois-ci, impliquer au premier rang dans l'assassinat au quartier Keshero, on ne va plus les libérer, j'en suis sûr.
Et qu'en est-il de plusieurs autres personnes arrêtées dans le cadre de l'opération Safi Chamoudji?
Objectivement, ceux qui étaient arrêtés pendant cette période de l'opération Safi Chamoudji de Goma, ils sont encore en prison. Raison pour laquelle nous faisons le plaidoyer auprès de la haute hiérarchie du pays que ces gens soient déférés dans d'autres prisons, dans d'autres provinces. Et cela va essayer de contribuer à l'assainissement de la sécurité dans la ville de Goma. D'autant plus que nous sommes dans une zone opérationnelle. La ville est presque encerclée, mais nous nous battons aussi pour assainir l'insécurité dans la ville de Goma.
Mais ces derniers jours, en tout cas la semaine qui s'achève, a été particulièrement difficile. Selon vos analyses, qu'est-ce qui est à la base de cette montée de l'insécurité à Goma où la population ne dort plus calmement?
Les bandits que nous venons d'arrêter depuis un certain temps, ce sont des militaires qui sont en divagation. Raison pour laquelle nous avons insisté auprès de la haute hiérarchie de la province afin qu'ils fassent le plaidoyer auprès des commandants à différents échelons, brigades, bataillons, de mieux gérer leurs hommes. Ça, c'est très important. Et la deuxième bande était constituée d'un militaire qui s'est donné le luxe de vendre, de faire louer les armes et les munitions aux bandits à main armée. Ça, c'est criminel. On ne peut pas accepter ça. Troisième bande, c'est les gens de commun des mortels qui font presque les cambriolages dans la ville de Goma. Vous avez vu l'appareil télévision et puis d'autres effets. Dans la troisième bande, il y a aussi un élément APCLS qui se dit Muzalendo. Lui, en état d'ébriété sous commandement de son chef qui est en cavale, a fait la musique en tirant des coups de balle pendant 2 heures presque dans la ville de Goma. Alors, dissipation des munitions, moi je crois que la rigueur de la loi sera sur son cas.
Comme autorité urbaine, quel est votre message aujourd'hui à la population de Goma qui a très peur du niveau de l'insécurité qu'on a vécu cette semaine?
D'abord, c'est la vigilance et aiguiser aussi la culture des dénonciations. Si on n'a pas le renseignement à temps, comment on va opérer? C'est leur contribution, c'est leur participation à ce que nous puissions bien mener les opérations dans la ville. Et d'autre part, nos amis qui ont le pouvoir sur le territoire de Nyiragongo, s'ils peuvent faire les opérations simultanées avec nous, ça sera pédagogique.
Monsieur le maire de Goma, je vous remercie.
Merci madame.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information vespérale sur Radio Kapi. Merci à Alain Irung Mouchinj qui l'a supervisé et coordonné. Polydor Basunga a assuré sa mise en onde. Patience Ngalula Mbombo, c'est moi la présentation. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.